VOA Afrique, les infos. À Washington.
Georges Vion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'Union africaine, réunie en sommet à Niamey, va lancer dimanche la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, projet phare en vue de l'émancipation économique de l'Afrique, qui bénéficie désormais du soutien longtemps désiré de la première économie du continent, le Nigeria. L'on devrait notamment connaître à Niamey le pays choisi pour accueillir le secrétariat de la ZLEC, le Ghana et Eswatini, entre autres, sont candidats. La ZLEC doit favoriser le commerce au sein du continent, attirer des investisseurs et permettre aux pays africains de s'émanciper de l'exploitation des matières premières. L'Union africaine estime que sa mise en œuvre permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le commerce intra-africain. Au Ghana, une polémique autour du coût des travaux du nouveau Parlement qui devrait s'élever à 200 millions de dollars secoue le pays. L'affaire enflamme les réseaux sociaux. Jacques Aristide.
Le gouvernement ghanéen a emprunté l'argent pour construire le nouveau Parlement, mais pour nombre de citoyens, le pays est confronté à des problèmes plus urgents tels que le manque d'hôpitaux et l'état délabré des écoles et des routes. Une campagne baptisée Drop That Chamber divise des milliers d'internautes sur Facebook et Twitter. La nouvelle chambre, qui pourra accueillir jusqu'à 450 députés, comportera une chapelle, une mosquée, un restaurant et un musée, un projet bien plus ambitieux que l'actuel, qui compte 275 sièges pour 275 députés. La constitution ghanéenne prévoit une augmentation tous les 10 ans du nombre de circonscriptions et donc de députés pour s'adapter aux évolutions démographique. Le ministre des Affaires parlementaires a défendu le projet, mais Osei Kyie Mensah Bonsu indique que le gouvernement ne va pas l'imposer si une majorité de Ghanéens s'y oppose. Une manifestation est prévue le 13 juillet. La rue est très active au Ghana et a notamment joué un rôle déterminant dans la chute de l'ex-président John Mahama.
L'ancien chef de la police algérienne Abdelghani Hamel, limogé en juin 2018, a été placé en détention préventive dans la nuit de jeudi à vendredi, après avoir été inculpé pour détournement de foncier et enrichissement illicite, a annoncé la télévision nationale. Le général à la retraite a été placé sous mandat de dépôt après avoir été entendu par le juge d'instruction du tribunal de Sidi Ahmed dans le centre d'Alger, a précisé la même source. Deux de ses enfants, inculpés pour les mêmes chefs, ont également été écroué dans la nuit, tandis que son épouse impliquée dans les mêmes affaires a été placée sous contrôle judiciaire. La Somalie a annoncé jeudi soir rompre toute relation diplomatique avec la Guinée pour protester contre l'accueil qui y a été récemment fait au président de la République autoproclamée du Somaliland. Le Somaliland a proclamé son indépendance en 1991, mais il n'est reconnu officiellement par aucun pays et fait partie de la Somalie officiellement, pays plongé dans le chaos depuis la chute de l'autocrate Siad Barre en 1991. Le ministre somalien des Affaires étrangères Ahmed Issé Awad a accusé lors d'une conférence de presse à Mogadiscio la Guinée d'avoir violé la souveraineté et l'unité de la Somalie. Au Soudan, les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation sont parvenus ce vendredi à un accord sur l'instance qui doit diriger la future période de transition. Les deux parties acceptent ainsi un partage du pouvoir entre militaires et civils après des mois de tension grâce à une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine. L'accord porte sur l'instauration d'un conseil souverain avec une alternance entre les militaires et les civils pour une période de 3 ans ou un peu plus, a dit le médiateur de l'Union africaine, Mohamed Al-Hassan Lebat. Le premier ministre malien Boubou Cissé a lancé jeudi à Mopti, dans le centre du pays, un programme spécial d'urgence de distribution de 8000 tonnes de céréales dans cette région frappée par les violences qui concentrent l'essentiel des déplacés au Mali. Et selon son entourage, il devrait annoncer l'arrivée de renforts dans la région. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé que le premier ministre aurait des échanges avec les commandements militaires pour discuter avec lucidité des enjeux de la sécurisation de la première région militaire du Mali en termes d'effectifs. On va en RDC. L'armée congolaise s'est déployée autour du site d'une filiale de la multinationale Glencore à Kolwezi, dans le sud-est du pays. Des mineurs artisanaux affirment avoir été expulsés après un effondrement meurtrier la semaine dernière. Irénée Manungbo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans la zone autour de Kamoto Cooper Company, a indiqué la compagnie suisse dans un communiqué. L'armée vient de nous déloger de force dans la mine après le récent éboulement, où où allons-nous travailler, a déploré l'un des manifestants, Léon Timanga. Certains ont été arrêtés, ont indiqué des sources sécuritaires qui leur reprochent d'avoir saccagé un bureau de la police. Cette intervention fait suite à une présence croissante de mineurs artisanaux illégaux à travers les concessions minières dans la région de Kolwezi, ce qui a conduit au tragique accident le 27 juin 2019. Une quarantaine de mineurs artisanaux sont morts jeudi dernier dans l'effondrement d'une galerie, d'après le gouverneur de la province de Lualaba, Richard Muyej. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait demandé une enquête pour établir les responsabilités.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis étaient à l'heure des festivités patriotiques hier. Le pays a marqué l'indépendance Day, commémorant la signature de la Déclaration d'indépendance qui a eu lieu le 4 juillet 1776. En plus des parades et des feux d'artifice habituels, le président Donald Trump a ajouté une dimension militaire à la fête nationale avec des blindés placés en évidence à Washington et a prononcé un hommage à l'Amérique depuis les marches de Lincoln Memorial, monument à la gloire du 16e président américain. Jacques Aristide nous fait revivre ces moments forts.
Neither aiming at originality of principle or sentiment.
Le 4 juillet 1776, la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique est signée à Philadelphie. Pour la Grande-Bretagne, c'est une déclaration de guerre à de ses 13 colonies d'Amérique. Les mois qui suivent sont sanglants. La défaite de l'armée de George Washington paraît inéluctable face aux puissantes forces britanniques. Mais les patriotes ne jettent pas les armes et continuent à combattre jusqu'à la victoire de Yorktown. Le chef d'état-major Washington en profite pour déployer ses troupes d'élite qui parviennent à achever les Anglais. En 1783, l'Amérique est libre, une nouvelle nation est née. Les Américains s'en souviennent chaque année.
C'est la manière américaine, non? Nous voulons faire quelque chose de grandiose, de spectaculaire.
Je suis fier et reconnaissant envers ceux qui ont servi notre pays et j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait, ainsi que leurs familles.
Dans la baie de New York, la frégate l'Hermione, réplique de celle de Lafayette au XVIIIe siècle. Lafayette, avec 242 hommes à bord, avait débarqué en 1780 pour apporter l'aide de la France à la Révolution américaine. Le majestueux trois-mâts a déjà eu l'occasion de participer à la fête du 4 juillet. Le capitaine Yann Carillou.
Je pense que être ici pour le 4 juillet, le jour de l'indépendance, c'est très très fort en symbole, puisque évidemment, on pourrait dire que ça marque complètement le voyage de 1780, puisque le but de l'Hermione, c'était d'apporter l'indépendance à ce pays. Et c'est ce que l'Hermione a fait avec Lafayette.
Les Américains ne manquent donc pas de marquer d'une pierre blanche cette date mémorable de leur histoire, un 4 juillet qui est bien évidemment l'occasion des feux d'artifice, des défilés ou si vous préférez les parades, des barbecues, des pique-niques et le tout complété par des matchs de baseball. Les uns et les autres n'oublient pas non plus de se souhaiter Happy Fourth, joyeuse fête de l'indépendance.
Merci Jacques Aristide. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé vendredi devant l'ONU l'érosion de l'état de droit au Venezuela, dénonçant par ailleurs une fois de plus les sanctions internationales qui aggravent la crise. Michel Bachelet, qui s'est rendu au Venezuela du 19 au 21 juin, s'exprimait devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU aujourd'hui, au lendemain de la publication du rapport sur ce pays qui a dénoncé un document truffé d'erreurs. Le rapport indique que depuis 2018, près de 7000 personnes ont été tuées dans des cas relevant de la résistance à l'autorité, selon le gouvernement, au cours d'opérations de sécurité. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi et bon week-end à tous.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.